programme vous est présenté par Callaway Apparel.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr, désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et à partir de jeudi sur Orange, canal 172. On est la semaine du Masters, on va se régaler, vous allez tout savoir, le parcours, les favoris, Mathieu Pavon, c'est tout de suite dans le Before. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Tillous de Journal du Golf. Salut Arnaud.
Salut JP.
Comment ça va?
Forcément bien. La plus belle semaine de golf de l'année. Et chaque fois, on se dit quand même, malheureusement, lundi, ce sera terminé. Il faudra encore attendre un an. Mais ça lance la saison, mais quelque part, ça ne la termine pas. Mais bon, c'est la plus belle semaine de golf de l'année. On est dingue.
Et on a avec nous également Guillaume Dufy de l'équipe. Salut Guillaume.
Bonjour.
Bon, on avait la chance l'année dernière d'y être à Augusta, de fouler ce parcours. Et là, on va dire que c'est la punition d'être ici.
Et là, j'aime bien ce canapé.
Voilà,
il est hyper bien.
Et là, avec moi. Quoi, voilà.
Exactement. Tout, quoi, comme a dit tout. Arnaud, c'est le vrai début de la saison. On est tous impatients. Chaque année, on se dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de golfeur français ». Et là, cette année, on a le bonheur immense, Mathieu Pavon.
Mathieu
Top
Pavon, ouais, qui vient
sur Mathieu Pavon,
vainqueur sur le PGA Tour, bien classé, et qui, il l'a dit, on le verra tout à l'heure, qui a cette fierté d'être rentré dans ce champ du Masters légalement, pas en passant par des qualifications, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement.
Non, c'est compliqué.
Mais on va revenir sur cet endroit d'Augusta National, qu'on voit chaque année à la télé, ou en vrai, pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est à chaque fois exceptionnel. C'est la perfection, c'est l'émotion, c'est l'excitation, c'est... On adore.
Mais vous avez expliqué en préambule qu'on avait eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance pour la première fois d'y aller l'an dernier, vous en reparlez, je regarde mes bras, j'ai des frissons. Franchement c'est un endroit magique, j'ai encore plein de souvenirs
dans
la
tête. Images, on a des odeurs même qui nous reviennent, des sensations quand on
Pigment Touches.
Moi je sais pas si c'est pareil pour toi,
l'émotion
Guillaume.
Du parcours, mais la manière dont il est préparé,
la première fois quand on sort de ce petit chemin là qui nous emmène du Media Center jusqu'au à cet endroit à ce parterre de béton, on voit ce départ du 1, j'ai des frissons, racontant.
Ce départ du 1 à la radio, Jean-Philippe.
Non, mais on voit ce leaderboard sur la droite.
Ce vieux leaderboard
qu'on a vu des années à la télé. Et puis on monte doucement parce que c'est vallonné et on voit cette.
Vous allez nous faire pleurer.
Non, mais moi j'ai des frissons en racontant ça.
Mais c'est vrai, c'est. Moi j'ai eu la chance, grâce à l'équipe, de faire quelques autres majeurs. Je suis toujours hyper excité à l'idée de les couvrir. Mais là, c'était pour moi, comme la première fois que j'ai mis les pieds à Wembley ou en 2014 avec la Coupe du Monde de foot au Maracana, il y a des choses assez mythiques et c'est un grand endroit de sport et aussi d'histoire.
D'histoire, de tradition, c'est ça qu'on aime. C'est une fois dans l'année, voire retourner dans le Saint des Saints.
Ouais, et puis ce qui est incroyable, c'est, alors, je sais pas si c'est des nouveaux à chaque fois, mais tous ceux qui y vont encore là dans les tweets, dans ce qu'ils racontent, dans leur papier, ils disent tous c'est encore plus beau en vrai que ce qu'on a vu à la télé. C'est toujours pareil, c'est pas pour chambrer ceux qui peut-être n'y ont jamais. On peut y aller, hein, même c'est très cher, mais on peut y aller en payant. C'est le voyage d'une vie. Mais voilà, une fois qu'on y est, c'est encore plus beau que ce qu'on a vu à la télé. Et déjà à la télé, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce que je dis. Si j'ai aimé le golf, c'est parce que j'ai d'abord aimé le Masters. J'ai d'abord aimé cet endroit. Je me suis dit, l'endroit est dingue. Je le dis à chaque fois. L'endroit est dinguissime. Et je me disais, si le sport est aussi beau que cet endroit, et je trouve que le sport est encore plus beau que cet endroit.
Arnaud, chaque année, tu me dis, cette année, le parcours, il est encore plus beau que l'année d'avant.
Non, je ne le dis pas chaque année. Mais cette année, apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais déjà, il y a un mois, même les gens d'Augusta disaient, cette année, on est particulièrement contents de ce qu'on a fait. Et tous les journalistes qui sont là-bas, enfin, en tout cas, j'en ai lu beaucoup, qui disaient, ouais, qu'il était particulièrement beau cette année. Après, c'est aussi une question de météo. Hein. Vous ne maîtrisez pas la météo. Bah, apparemment, il a dû avoir une météo particulièrement favorable. Et très beau aussi cette année. Voilà.
Moins humide que l'année dernière, Guillaume.
Ah oui, on avait subi quelques averses, quelques tempêtes. Certains arbres, d'ailleurs, n'avaient pas supporté le vent et étaient tombés.
On avait frôlé la catastrophe.
Effectivement. Et la magie de cet endroit, enfin de ce majeur, c'est que c'est toujours au même endroit, quoi. C'est Wimbledon, c'est Roland, c'est gravé dans le marbre, ça bouge pas. Et je trouve ça assez magique.
Ouais, justement, on va écouter un joueur, Grégory Avray, qui lui se souvient de sa seule édition en 2011 et qui nous raconte l'émotion justement de d'être sur ce premier départ un jeudi au Masters.
On ressent tout. Bon, c'est une semaine exceptionnelle. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est qu'elle est très dure d'accès. C'est le majeur qui est le plus dur à jouer parce qu'il n'y a que 96 joueurs, je crois, alors que sur tous les autres, il y en a 156. C'est que sur invitation, à part le top 50 mondial et certaines énormes performances comme celle de Matt il y a quelques semaines. Donc c'est sûr que d'être au départ du 1 et d'avoir réussi à passer tout, enfin, l'étape nécessaire. Moi, c'était l'US Open donc l'année d'avant où j'avais fini second et les 4 premiers de chaque majeur peuvent jouer le Masters l'année suivante. Donc on se fait un film dans la tête pendant quelques mois avant d'arriver. On arrive très tôt, moi je suis arrivé très tôt la semaine d'avant. Et puis on en prend plein la tête pendant quelques jours. Ce qui fait que quand on est rookie, c'est un peu dur de bien jouer parce qu'on est un peu éparpillé. C'est dur de vraiment se concentrer sur le jeu, sur la performance, même si on est là malgré tout pour bien jouer et pour être bon pendant 4 jours. Mais c'est vrai qu'on se laisse un peu transporter par la magie du lieu. Ouais. On se construit ça au fur et à mesure des années, devant la télé. Je me souviens quand j'avais 12, 13, 14 ans, on avait les cassettes à l'époque, on enregistrait ça le soir, je regardais le lendemain et puis j'avais toutes les cassettes, Masters voilà, 88, 92, 93. Je me souviens des commentaires de Bernard Pascasio et André-Jean Laforie, cette petite musique qui existe ailleurs toujours aujourd'hui. Toutes ces histoires, bref, toute la légende qui se crée autour de ce tournoi. C'est un tournoi assez jeune, hein, finalement, c'est peut-être le plus jeune des majeurs d'ailleurs. En tout cas, bien loin derrière le British et derrière l'US Open aussi. Le PGA, je ne sais pas trop, mais c'est malgré tout, même malgré sa jeunesse, un moment particulier et quelque chose qui fait rêver particulièrement. Ouais.
Merci beaucoup à Grégory Avray, un départ du 1 toujours impressionnant. Et Arnaud, je crois que tu as une anecdote sur Greg Chalmers.
Ouais. Greg Chalmers, premier Masters en 2001, il raconte ça évidemment sur Twitter, toutes les infos qu'on peut piocher. Donc premier Masters, départ du 1 le jeudi matin.
Le jeudi, ouais, en tournoi.
En tournoi, très nerveux apparemment. Et ben, il a mis sa balle, il est gaucher, donc il a mis sa balle direct à gauche. Sur l'œil d'un spectateur, il a dit qu'il a failli lui crever l'œil. Apparemment, l'autre était KO.
Est-ce qu'il a fait le par après derrière ?
Mauvais départ n'empêche pas par.
Est-ce qu'il a fait le par derrière ?
C'est la phrase la plus débile de l'histoire du golf. Mais Guillaume, c'est honteux.
Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai. Bon,
mais ce qui est vrai. C'est pas fini, parce qu'il a dit un gant, ça suffisait pas, visiblement. J'ai pas vu exactement,
est-ce
parce que j'étais direct
un
à la suite. Non, mais parce que deuxième coup, il chope un mec sur la droite, dans la tête, quoi. Donc le mec a commencé, deux premiers coups du Masters, deux spectateurs abîmés. Et il dit que depuis ce jour-là, il pense que c'est depuis ce jour-là qu'il n'y a plus aucun spectateur à gauche au départ du 1. Je ne pense pas que ce soit totalement vrai, mais voilà. Quoi. Greg Chalmers, il dit qu'il a fait 78 ce jour-là.
Bah non, ce n'est pas vrai, parce que j'ai suivi le départ de Woods l'an dernier, j'étais à gauche.
C'est pour expliquer à quel point ce départ du 1, c'est un départ que c'est quasiment comme un départ de Ryder Cup. En tout cas, même pour un joueur professionnel parmi les meilleurs du monde, vous avez le cœur à 120 et vous êtes capable de faire un swing comme nous, comme toujours.
Ouais, en tout cas, pour les spectateurs aussi, c'est des frissons de regarder ce Masters à la télé ou bien même en vrai quand on a la chance d'y aller. Et justement, on vous a posé la question au golf de Paris-Longchamp. Comment est-ce que vous allez vivre ce Masters d'Augusta ?
Le Masters, globalement, c'est un tournoi un peu unique. Pour vous, il représente quoi dans l'année ?
C'est la quête du Graal.
Bah pour moi, c'est la Mecque du golf, c'est le rendez-vous de l'année, là où les meilleurs se rencontrent.
Ouais, il représente le rêve de la veste verte. En tout cas, en tant que gosse, j'en ai longtemps rêvé, cette veste verte. Ouais.
Parcours mythique, déjà, parcours super manucuré, des fleurs partout, dans toutes les allées, sur toutes les bordures. C'est un parcours formidablement bien préparé, avec tous les pièges golfiques qu'on peut imaginer, c'est la main corner.
Pour moi, ça représente un des plus beaux tournois majeurs qui existe au monde. Hein. C'est un tournoi qui existe depuis maintenant très longtemps. Ça a été créé dans les années 20 par un des plus grands joueurs américains de l'époque, Bobby Jones. Et en fait, le fait que ce tournoi se joue toujours au même endroit fait que c'est un événement un peu particulier, un peu spécial. Ouais.
Et c'est un tournoi que vous regardez, comment vous organisez?
Alors, cette année, ça va être un peu compliqué parce que je suis en famille, je garde mes petits-enfants en plus durant le Masters, donc je vais sûrement regarder le soir ou en différé. Je vais m'arranger pour regarder, en tout cas, sur, à minima le samedi-dimanche.
Tous les ans, moi, j'ai un de mes patrons qui n'est pas très loin là, mais le double écran sur l'ordinateur pour suivre.
Les deux, trois premiers jours, je les regarde tout seul à la maison et le quatrième jour, c'est barbecue et chez les copains et puis tout le monde devant la télé.
Ah, c'est un tournoi que je regarde tous les ans, mais vraiment tous les ans, je ne loupe pas parce que c'est un des tournois en fait, sur lequel il y a plus de suspense. Enfin, il y a toujours beaucoup de suspense, mais en fait, sur Augusta, c'est vraiment génial à regarder. Ouais. Très sympa.
Vous avez parlé de la veste verte cette année. Qui sont vos favoris pour la ramener chez eux?
Numéro 1 mondial est très très en forme. Il a gagné deux tournois consécutifs, presque le troisième encore récemment. Donc Scotty Scheffler sera sûrement en haut du tableau. J'aimerais beaucoup une performance de Mathieu Pavon aussi, qui va jouer Augusta et qui a été en forme aussi en début de saison.
Ce serait très beau si Rory réussissait à faire un grand chelem. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
Ouais, Tiger. Mais ouais, Scotty Scheffler est largement dans les favoris. Le livre aussi avec Rahm et Koepka.
Alors pour cette année, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent gagner. Je pense que John Rahm peut à nouveau gagner. Je pense que Koepka peut à nouveau gagner. Bien évidemment, Scotty Scheffler. Et puis McIlroy. Et puis avec une bonne surprise peut-être avec notre Français. Pas bon.
Voilà, merci beaucoup à Manon Cambrai et Fabio Scarfo. Et sans plus attendre, direction Augusta, l'Augusta National Golf Club, où on joint Romain Lefebvre qui est là-bas pour l'équipe. Bonjour Romain.
Salut tout le monde, ça va?
Alors Romain, petit vénard, hein, cette année c'est ton tour, Guillaume Dufy est jaloux.
Jean-Philippe Rodenberger
aussi. Exactement, raconte-nous un peu l'ambiance, cette ambiance, ces premiers pas d'Augusta. Est-ce que tu l'as retrouvé dans le même état qu'en 2022 quand tu y allais la dernière fois?
Absolument, rien n'a changé, tout est toujours aussi impeccable. Il n'y a pas énormément de modifications cette année, ni sur le parcours, ni dans les alentours. Mais c'est toujours aussi manucuré, aussi léché, aussi parfait, aussi beau. Alors il manque un petit peu de soleil et de luminosité pour sublimer, magnifier tout ça. Mais j'avoue que c'est toujours un régal d'aller comme hier au practice voir la séance d'échauffement de Mathieu Pavon, suivre les quelques trous du retour et notamment arriver dans cet Amen Corner qui est toujours aussi magique. C'est à chaque fois le même ravissement, la même beauté, le même éblouissement. C'est quelque chose d'unique et c'est un privilège que jamais on ne galvaudera, en tout cas moi de mon côté, jamais.
Ni Guillaume ni Jean-Philippe, mais Romain, la dernière fois que tu avais été à Augusta, si je ne me trompe pas, c'était club en main, donc tu n'as pas eu envie de les reprendre là cette année?
Alors c'était en 2018 que j'ai eu le privilège de jouer le parcours en étant tiré au sort comme une trentaine de journalistes accrédités. Mais là, il va falloir attendre un bon moment puisqu'il doit se passer 7 années. Avant qu'on puisse retenter notre chance. Donc pour l'instant, je ne suis que spectateur et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et puis on est à J-1, l'excitation commence à monter, les conférences de presse ont eu lieu hier, ils sont tous, toutes les stars ont défilé dans ce magnifique auditorium réservé aux conférences de presse, les uns après les autres. Ils n'ont pas dit des choses forcément passionnantes, mais il n'y a pas eu de grands sujets, de grands débats. On sent quand même une concentration énorme parce que c'est le premier majeur de l'année. Donc on sent les joueurs très concentrés sur leur objectif. Il y a vraiment un gros enjeu sur ce Masters. Je pense qu'on en reparlera, mais c'est vrai que plus que les autres années, l'enjeu est énorme parce que c'est cette année la réunion de tous les talents du golf mondial dans ce golf divisé, éclaté, morcelé par la création du livre il y a 2 ans et qui a fait que on ne retrouve plus les meilleurs au monde dans les mêmes champs de joueurs, à l'exception des majeurs et en particulier du Masters d'Augusta, qui a ses propres critères de sélection et qui, par exemple, s'est permis d'inviter Joachim Niemann, qui est leader de la race du livre, alors que dans les points mondiaux, il n'était absolument pas qualifié puisqu'il est très loin du cut, très loin du top 30 mondial, puisqu'il est du top 50 mondial, puisqu'il est classé 93, quelque chose comme ça.
Alors évidemment, Romain, vous êtes spectateur cette année, mais aussi créateur d'émotions. Hein, vous avez suivi la reconnaissance de Mathieu Pavon, seul Français présent cette semaine. Comment il était, Mathieu? Apparemment, un amène corner plutôt bien maîtrisé. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu de Mathieu Pavon.
Pas seulement l'amène corner. Il m'a beaucoup séduit dans son approche du parcours. Il n'a absolument pas été paru, en tout cas, intimidé par. Par ce retour qui est toujours compliqué. Dès le trou numéro 10, il faut quand même contrarier ses qualités naturelles de joueur de fade avec ce très long par 4 en descente qui est plutôt idéal pour un joueur en draw. Il l'a parfaitement négocié. Dès le début, il a mis un marron son dessus pour arriver à 120 mètres du green, ce qui est quand même assez rare. Moi, j'en ai pas vu beaucoup taper aussi bien parfaitement sur le fairway. Derrière, il a mis une flèche avec un petit wedge de 120 mètres délicatement posé à 1,20 m du trou. Et il a fait ça à peu près tout le temps. Il s'est égaré parfois parce qu'il a tenté des choses, je pense. Il a tenté des trajectoires. Mais à chaque fois qu'il jouait une deuxième balle, voire une troisième balle, il se remettait dans le bon chemin. On l'a senti très apaisé, très calme, très professionnel, très serein. Il a réagi à quelques petites vannes de son camarade, de son pote du DP World Tour, Adrien Sadier, qu'il a invité, qui fait partie des accrédités de son clan, en tout cas qui sera là jusqu'à jeudi, et qui est venu découvrir les lieux aussi, lui qui n'avait jamais mis les pieds à Augusta. Et voilà, il l'a chambré quelques fois sur le parcours en lui disant notamment $100 si tu la mets sur le green. C'était sur le 13 où il s'était égaré sous les arbres dans les aiguilles de pin. Évidemment qu'il ne l'a pas mis sur le green. Donc voilà, mais c'était à la fois sérieux, pro, solo, beaucoup de discussions avec son caddie, Mark Sherwood, qui est très expérimenté, hein, qui était là ici quand. Le Suédois Hansson avait été dans la dernière partie de Bubba Watson en 2012, si je ne m'abuse.
Ouais, troisième en 2012, voilà, Hansson.
Voilà, c'est ça. Il était dans la dernière partie. Il n'avait pas réussi à accrocher le playoff. Mais voilà, donc il est très expérimenté. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup échangé sur les greens, au bord des greens, autour des greens. Il a beaucoup travaillé son chipping, plus que son putting. On sent qu'il a des certitudes sur le putting, il n'a pas forcément au chipping. Et c'est intéressant parce qu'il me disait la semaine dernière, quand j'avais été le voir en Floride, qu'il fallait peut-être sur certains trous dans la stratégie mieux rater et se mettre en bord de green que loin sur un putt compliqué avec un double plateau. On sent que dans sa stratégie, quand il ne faudra pas attaquer, prendre des risques et attaquer les drapeaux parce qu'ils seront trop compliqués, bah, il ira peut-être se poser un peu plus loin, mais plutôt en bord de green pour chipper. Et d'où l'intérêt d'avoir beaucoup travaillé autour des greens, d'avoir beaucoup travaillé son chip inversé. Ce qui était, à mon avis, un des axes de travail de cette reco hier.
Romain, sa bombe au 10, il la met en fade, il la met en draw. Comment il le...
Non, il la met plein draw. Non, il la met plein draw, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que... Mais il a toujours dit que c'est pas parce que c'est un joueur de fade qu'il n'est pas capable de faire du draw, il est capable d'en faire. Et il l'a prouvé sur ce coup-là, il l'a prouvé à d'autres reprises sur le retour. C'est pas quelque chose qui l'effraie. Naturellement, c'est un joueur de fade, c'est là qu'il se sent plus à l'aise, dans cette balle qui tourne un peu vers la droite et qui s'arrête sur... qui roule pas trop sur le parcours, mais là il avait besoin de la faire rouler, de la faire descendre, dévaler cette piste. C'est vraiment une piste noire, c'est très incliné, on le voit pas à la télé, encore une fois, faut le dire et le répéter, mais c'est vraiment une piste très très inclinée, et il a pris le rebond idéal pour se positionner vraiment se mettre en position de birdie derrière avec un super super wedge. Donc voilà, il s'est rassuré, il est rassuré, il a fait une reco la première semaine où il est venu ici avec Shane Lowry, qui a été très enrichissante. C'est Thomas Levey qui nous racontait ça hier, le consultant de Canal+, qui nous disait qu'il avait beaucoup appris de Shane Lowry, que Shane Lowry lui avait donné beaucoup de conseils, très, très sympa. Et voilà, il s'est nourri des conseils de Lowry, il s'est nourri évidemment des conseils de Levey, son mentor, avec qui il a beaucoup débriefé tous les trous, et notamment certaines stratégies, certaines positions de drapeau. On sent qu'il est prêt, qu'il a envie de rester frais, donc il va s'économiser en jouant 9 trous par jour. Peut-être qu'aujourd'hui, il va jouer le par 3 contest. La décision n'était pas encore prise hier. Mais en tout cas, après une semaine où il a eu un petit début de rhinopharyngite, il était un peu enroué et il avait chopé froid dans un avion, tous les voyants semblent au vert, il est entouré des siens, ses parents sont là, ses frères sont là, son kiné, Jérémy Da Silva est là, son agent, Rob Jarvis, voilà, donc la team Pavon est prête à attaquer ce gros morceau.
Romain, salut, c'est Guillaume. Je ne sais pas si tu as eu le temps, parce que tu as l'air d'avoir beaucoup suivi l'évolution de Mathieu Pavon, de te pencher aussi sur le cas de notre idole à tous, Tiger Woods.
Votre idole.
Mon idole, que tu vas avoir la chance de voir jouer. C'est un privilège rare aujourd'hui. J'ai vu sa conférence de presse. Moi, je l'ai trouvé hyper émouvant quand on lui a demandé pourquoi il était là, quoi. Pourquoi il continue à se faire mal, pourquoi il se préparait toujours autant pour alors qu'il a tout gagné. Il a dit parce que j'aime le golf, mais je ne sais pas si tu as pu le croiser ou le voir ou l'accompagner un peu sur 9 trous comme tu as fait avec Mathieu Pavon. Dans quel état tu l'as trouvé, si tu as eu la chance de le voir?
Alors non, je ne l'ai pas vu sur le parcours, je l'ai vu au practice puisqu'il y était quand Mathieu Pavon faisait son warm-up hier matin. Toujours je ne sais pas comment décrire, mais c'est ce charisme qui en impose et qui fait que tout le monde, tous les regards sont braqués sur lui tout le temps, en permanence. Et quand il arrive sur le practice, c'est un monde du silence qui s'impose dans l'admiration et le respect de cette carrière légendaire. Maintenant, je l'ai vu en conférence de presse aussi, je l'ai écouté. Je l'ai trouvé assez touchant, mais finalement dans une répétition de son discours habituel, disant que s'il était là, c'est parce qu'il croyait en ses chances. Mais il faut être quand même réaliste, la statistique ne parle pas en faveur d'une performance de Tiger Woods à Augusta. La statistique récente, je veux parler de ces deux dernières années, je veux parler depuis sa blessure, même depuis son accident de voiture, le nombre de tournois qu'il a joué, le nombre de cuts qu'il a passé, le nombre de tours qu'il a réussi à boucler. On est très loin du compte. Alors il y a
Ouais, on vous entend mal, Romain, ça coupe un petit peu. On va. Ça coupe un petit peu, Romain. On a bien compris que c'était, ça allait être compliqué pour Tiger Woods.
Enjoy, Romain.
Ouais.
Enjoy.
Ouais, merci beaucoup, Romain, de nous avoir accordé quelques instants. Tu es de retour, Romain?
Oui, je suis là, je suis toujours là.
Ouais, t'es de retour. Donc, ouais, compliqué pour Tiger Woods, notamment à cause de ses différentes blessures. Et on l'avait vu l'année dernière, hein,
il avait passé le cut.
Grâce à un concours de circonstances.
Il avait passé le cut,
exactement. Mais ça va être compliqué, notamment la façon dont il va pouvoir marcher ce parcours et plus ou moins être plus ou moins fatigué avant les tours.
Jouer au golf, il sait, marcher, on n'est pas sûr.
Voilà. En tout cas, régalez-vous, Romain, et régalez-nous toute cette semaine à suivre Mathieu Pavon.
Régulièrement.
Et oui, on va vous retrouver évidemment.
Et on va vous lire dans l'équipe, hein, on peut déjà vous lire aujourd'hui.
Et merci beaucoup, Romain, et bonne semaine.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, messieurs, on va évidemment revenir sur Mathieu Pavon. On va parler de Tiger Woods un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'avoir un Français, avoir Mathieu Pavon, et en plus que Mathieu Pavon, qu'on sent vraiment, on va pas dire faire du Pavon, mais très à l'aise finalement dans son environnement. Il est chez lui sur le PGA Tour et on a hâte de le voir club en main au départ du 1 au Masters.
Il dégage une sérénité incroyable. Ce qui est hallucinant avec lui, c'est qu'on pense même qu'il est capable de faire quelque chose, parce que je trouve que
en faire quelque chose, c'est pas on pense, ça on en est sûr.
Oui, mais
gagner, on le pense.
Faire
quelque chose, mais faire quelque chose, on en est sûr.
Passer le cut pour son premier, il y a quand même une pression.
Les premières fois au Masters, c'est toujours compliqué. Hein, tous les joueurs le disent. Hein.
Oui, mais bon.
Je trouve que il est armé physiquement, golfiquement, psychologiquement. Si stratégiquement, il est bon. Très franchement, on peut rêver. Le mettre dans les favoris, on en parlera peut-être
non,
tout à
non,
l'heure.
Bah non,
non, non, mais je trouve qu'il a quelque chose. Il oui, a quelque chose. Oui, son début de saison sur le PGA est totalement remarquable.
Mais Thomas Levé le disait, Thomas Levé disait qu'il pouvait battre sa performance de 2005 où il avait fini 13e, c'était meilleure performance d'un Français.
De toute façon, pour gagner le Masters, il faut quasiment être dans le top 30 mondial. C'est quasiment, depuis quelques années, c'est quasiment une condition obligatoire. Donc lui, il y est dans le top 30 mondial. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Mathieu, c'est que depuis sa victoire en Espagne et tout ce qui se passe, on a l'impression qu'à chaque étape, il a pas peur, il continue à grimper et il continue à voir plus haut. Donc effectivement, tout est possible cette semaine. De la gagner encore une fois, des gens qui ont gagné, des rookies qui ont gagné, il y en a quand même pas eu beaucoup dans l'histoire.
Ça sent dans le quiz, ça. Ah, ouais, j'espère que vous allez bien. Mais l'atout quand même de Mathieu Pavon, c'est son caddie aussi. Son caddie, Mark Sherwood, Woody, qui a une expérience de dingue à Augusta, troisième avec Peter Hanson en 2012. Non, mais ça fait. Je pense que, Romain Langas, Mathieu Pavon a confiance avec un caddie comme ça.
Oui, non, mais il a su le prendre aussi. C'est là aussi, ça prouve. Il disait qu'avant, son caddie était très bon, mais qu'il a senti que pour passer à un niveau supérieur, il fallait. Enfin, à chaque fois, pareil, Romain le disait, là, il a été le voir la semaine dernière en Floride. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview dans le magazine L'Équipe. Elle est magnifique. Voilà, Romain a commencé, je ne sais plus si c'est dans le mag ou si nous l'a donné à nous, il commençait en lui disant alors ça t'a redonné confiance, ta cinquième place à Singapour. Il dit quoi, mais j'avais jamais perdu la confiance, j'ai juste perdu mon grand-père, puis enterré mon grand-père. Ouais. Enfin, il est d'une, comme l'a dit Guillaume, il est d'une sérénité, mais c'est impressionnant. Encore une fois, plus il monte, plus il est serein et plus il vise haut. Donc tout est permis cette semaine.
T'as quand même l'impression.
La victoire, moi, j'y mettrais pas grand-chose. Non, mais un top 5, je veux bien mettre 10 euros sur un top 5 de Mathieu Pavon. Ça doit bien rapporter en plus.
T'as quand même l'impression qu'il est là. Je parlais de sa sérénité, qu'il est là depuis 5-6 ans.
C'est vrai qu'il est chez lui, qu'il est installé, qu'il est bien sur le PGA Tour, qu'il découvre pas son normal.
Il est à sa place. Et je pense que la qualité de ses résultats en début d'année 2024 lui a permis aussi peut-être d'évoluer sur le circuit de manière un peu plus libérée, sans se dire il faut aller chercher 3 points là, 4 points là, 5 points là. Bon, non mais c'est vrai.
Ah bah c'est
franchement
difficile,
de jouer complètement libéré en sachant que la saison prochaine vous serez là et dans 2 ans vous serez là aussi. Ça doit quand même aider énormément dans la manière d'appréhender un événement.
C'est le fameux, le golf, c'est un jeu de confiance. Comme le dit Bob Rotella, la confiance, elle vient avec les résultats. Il a gagné, il fait 3e, il a fait que des top 20 ou top 30, je crois, sur son début de saison. Après, encore une fois, il y a eu ce drame familial qui l'a un peu freiné. Il va à Singapour, il fait 5e. Donc, il est 24e, 23e mondial cette semaine, je ne sais pas exactement. Il est à sa place, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il est 6e à la FedEx je crois, ouais. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, donc forcément il a confiance, donc forcément il joue bien.
Et ce qui est dingue, après c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est quand on voit sa finale à Dubaï, et on voit quand on le prend par exemple à la finale à Dubaï, quand on prend au départ du 10, on est loin d'imaginer quelques mois après qu'il va se passer tout ça. C'est 3 birdies sur les 4 derniers trous.
4 birdies
sur les 4 derniers trous qui l'emmène.
C'est pas dans le quiz.
C'est pas dans le quiz. Qui l'emmène à finalement se qualifier, à arracher ce spot pour le PGA Tour. L'histoire est complètement dingue.
Oui, mais c'est ça qui est impressionnant chez lui, encore une fois. On le découvre à chaque interview, on le découvre à chaque tournoi. Là, apparemment, il a dit qu'il ne souhaitait pas parler à la presse française avant jeudi. Il n'y a pas de faute dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tous ses choix. Encore une fois, il y aura un très bon papier par Fabien Pigalle le mois prochain, dès la fin du tournoi, dans Journal du Golf, où il parle de tout son entourage, où il dit à quel point il a investi dans son entourage. Il a bon sur tout. Il parle de LeBron James qui investit $1 million pour se soigner ou pour son corps. Il dit, mais bon, s'il en gagne 30 chaque année, il a raison. Voilà. Et Pavon, il est là-dedans. Stan Caturla, qui avait été le voir à La Réunion, nous disait exactement la même chose. Il investit comme aucun autre joueur français, je pense, peut-être Victor Pérez, comme aucun autre joueur français, dans sa carrière, dans son corps, entourage. Dans son entourage. Mmh. Et voilà, les résultats sont là. Et ce qui est dingue aussi, c'est que son mental aussi est là. Et c'est peut-être, à la limite, moi je ne savais pas, mais je trouve que son mental est encore peut-être plus fort que tout. C'est impressionnant, moi je trouve, comment il est, quel champion il est. Il apparaît.
Alors vous parliez de ses rapports avec la presse française, il a quand même accueilli l'équipe la semaine dernière.
Ce
qui est bien, c'est que c'est calé, c'est béton, il n'a pas envie
de
se polluer l'esprit en multipliant les interviews sur cette semaine capitale, sa première semaine sur le Masters. Il a déjà joué d'autres majeurs.
Et hein. Il a répondu à la presse en interview, en zone mixte, la presse américaine.
Aussi. Et après, je trouve, en regardant et en épluchant ce que je me suis amusé à faire il y a quelques dizaines de jours, toutes ces cartes rendues, il y a des axes aussi, je pense, de progression chez lui.
Vous lui avez envoyé, non?
Non, mais parce qu'il sait. Mais c'est vrai que, par exemple, je ne sais plus quel tournoi, deux tournois où sur les par 5, il ne score pas comme les autres qui gagnent tous les week-ends score. Et donc, peut-être qu'il y a un axe de travail. C'est une question, une réflexion très naïve, mais sur les par 5, il n'a pas birdie.
Oui, mais sur ce tournoi-là, ce qui arrive à tout le monde, Guillaume.
À chaque fois, mais par exemple, sur le Masters l'an dernier, Koepka, il est leader le matin du quatrième jour parce que sur les par 5, il est monstrueux. Sur les par 4, il est cœur de green, il ne prend aucun risque, il attaque aucun drapeau. Il y a une histoire aussi de stratégie, de découverte aussi des parcours américains qui sont différents de ce qu'il a pu rencontrer durant sa carrière en Europe.
Il a bien dompté les parcours américains.
C'est vrai.
L'exemple que je donnais aussi sur sa gestion de carrière, c'est quand il jouait avec Julien Guerrier, je crois que c'est le troisième tour à Dubaï,
ouais,
et il disait qu'il
s'est forcé entre guillemets à ne pas lui parler,
pas trop lui parler, en disant nous on a tendance les Français, voilà, bah, tout ça. Moi typiquement, ça fait quand même une vingtaine d'années voire un peu plus que je suis le golf, bah, j'avais jamais lu un golfeur français qui disait ça. Et Pavon, c'est ça, c'est à chaque interview, je trouve que c'est intelligent. Alors je ne sais pas si on peut
il
dire
évolue,
plus en plus intelligent,
mais
voilà, il progresse à chaque tournoi.
Allez, je vous propose justement de l'écouter, Mathieu Pavon.
Oui,
Romain Lefebvre, on l'a dit, était la semaine dernière en Floride avec Mathieu Pavon. Il nous a ramené cette petite interview croustillante.
Interview. Okay. J'ai pas pu placer mon chalmer.
Mais
c'est pas grave.
Les par 5 sur deux tournois.
Ça a toujours été un rendez-vous immanquable de début avril.
Ah oui, c'est clairement le truc. Depuis que je suis gamin, le Masters, voilà, c'est la semaine où je vais passer mon temps devant la télé, du jeudi au dimanche, et même parfois regarder le par 3 juste avant le mercredi. Donc ouais, c'est vraiment le rendez-vous incontournable pour moi et de tous les majeurs chaque année.
Et est-ce que tu es sensible à toutes les traditions qu'il y a autour de ce tournoi, qui sont vraiment très particulières, un peu comme Wimbledon en tennis, que ce soit l'absence de téléphone portable au bord des fairways, que ce soit tout ce cérémonial, ces trois champions légendes qui viennent taper les premiers coups le jeudi matin. Tu es sensible à tout ça? Ça t'émeut? Ça te parle?
Ouais, c'est ce qui est. On sent vraiment que c'est un majeur un peu plus particulier que les autres. Voilà, toutes ces combinaisons blanches pour les cadets. Le fait que ce parcours soit très difficile d'accès toute l'année. Après, de là à être vraiment sensible à toutes ces coutumes-là, c'est pas vraiment le cas pour moi.
Tu vas être entouré de tes proches, de ta famille, de ton équipe aussi. Il va y avoir beaucoup de monde autour de toi pour t'encourager, ou tu as essayé de resserrer au maximum? Comment tu t'es organisé pour que...
Non, c'était vraiment la première, c'était vraiment une expérience que je voulais partager en famille. Donc toute ma famille sera là. Et après, voilà, les personnes de mon staff qui seront là, ce sont celles que j'ai estimées le plus apte à m'aider cette semaine-là. Donc voilà, les choix étaient mûrement réfléchis pour mon staff. Et à côté de ça, c'était juste une belle semaine à passer en famille.
Est-ce que tu as parlé du parcours un peu avec ceux qui l'ont joué? Je pense à Thomas, évidemment, mais Greg Avray aussi, Victor Dubuisson, Victor Pérez.
Non, j'en ai pas parlé du tout.
Non, ni non. Du parcours, ni de ses...
Non, rien.
Donc tu arrives avec l'esprit frais.
Ouais, l'esprit frais. Après, je pense qu'il y aura des choses à aller chercher chez les différents joueurs, non pas à blâmer mes compatriotes français, mais je pensais à des joueurs qui ont vraiment joué pendant des années et des années ce parcours, qui l'ont vu évoluer, qui l'ont connu dans des températures très hautes et peut-être sèches, et aussi dans des moments un peu plus humides. Donc c'est chez ces gens-là que j'irai puiser 2-3 informations. Après, je pense que c'est aussi intéressant de se faire une idée soi-même la première fois qu'on y va, essayer de voir quel type de coups on se sent à l'aise de taper, et non pas les coups qui sont dictés par ces joueurs qui l'ont déjà joué avant.
Alors, ce parcours est iconique. Et qu'est-ce que tu attends le plus avec impatience? Je sais pas, c'est la main corner, c'est le départ du 18, c'est un ensemble. Il y a des trucs en particulier que tu as hâte de voir?
C'est vraiment un ensemble. Après, c'est sûr que ce petit par 3 dans le Amen Corner suscite pas mal d'interrogations parce qu'on sait qu'il y a des positions de drapeau comme celle du fond à droite que les joueurs ne vont jamais titiller. Donc ça va être intéressant d'aller voir en fait comment joue le vent sur ce type de par 3, pourquoi ces joueurs-là s'alignent plutôt à gauche alors que c'est pas un très très long coup. Donc voilà, c'est toutes petites interrogations, mais après c'est vraiment l'immensité de ce tournoi en fait que j'attends de pouvoir palper en fait la tension générale de cet endroit et aussi la chaleur de tous ces supporters et fans qui seront là.
Comment, quand on aborde un parcours comme ça qu'on ne connaît pas, même si tu vas faire des recos, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à ces recos que tu vas faire ou tu considères aussi qu'il y a une part d'instinct qu'il faut laisser parler naturellement?
Oui, il y a un peu des deux. Après, je pense que mon cadet Marc Sherwood sait très bien ce que je dois voir là-bas. Il y allait plusieurs fois, donc je pense que je me laisserai un peu guider par ses paroles. Après, ce sera une roco comme les autres. J'essaie vraiment de prendre ce tournoi comme un autre tournoi, le préparer exactement de la même façon. C'est pas parce que c'est pour moi le plus beau tournoi au monde qu'il faut que je me prépare forcément différemment. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien fait les choses jusqu'à présent, depuis le début de l'année. Et je vais juste essayer de suivre cette ligne directrice et de ne pas m'en dérouter.
Alors, tu insistes souvent sur le fait que d'être qualifié au mérite, c'est-à-dire sur ta valeur intrinsèque et non pas en passant par un tournoi de qualif que tu as pu faire pour The Open ou l'US Open, etc. Pourquoi tu attaches autant d'importance à ça?
C'est juste qu'on est légitime. En fait, il y a des façons d'entrer dans ces tournois qui sont bien propres, le top 50 mondial, le top 30 de la Race to Dubai, des choses comme ça. Donc voilà, c'est important en tant que joueur de les avoir légitimement. Ça prouve la valeur de notre travail, surtout qui a été effectué les années d'avant et le niveau actuel où on est. Donc pour moi, c'est vraiment se sentir en fait qu'on n'est pas là en fait par hasard, parce que encore une fois une qualif, j'en ai réussi 3 pour l'US Open. C'était génial d'aller jouer là-bas, mais je me suis jamais senti légitime d'y être et légitime de faire une très belle performance là-bas. Donc voilà, c'est juste bien réconfortant d'y aller de par son classement et de par son niveau de jeu au lieu d'y aller simplement par une qualification.
Il y a ce fameux débat draw fade à Augusta. Les joueurs, le parcours serait mieux, plus dessiné pour les joueurs en draw que les joueurs en fade. Tu es joueur en fade, mais tu as une réponse à ça.
Oui, je pense qu'on peut gagner dans les deux sens. Voilà, John Rahm n'est pas forcément un grand joueur de draw et pourtant il sait en faire quelques-uns. Il a réussi à s'imposer là-bas. On avait discuté avec Thomas Levé de ça et voilà, celui qui a gagné le plus de Masters, c'est il me semble Jack Nicklaus. Et Jack Nicklaus n'était pas un grand joueur de draw. Donc voilà, après, peu importe, je pense qu'on est tous capables de jouer des coups différents quand la situation se présente, et je pense avoir autant ma chance qu'un joueur de droit.
Quel genre de golfeur es-tu? Est-ce que tu as besoin de rentrer dans une bulle de concentration ou au contraire d'être un peu détaché de l'événement pour pas te mettre trop de pression sur les épaules?
Ça ne change vraiment pas pour moi, que ce soit un majeur ou l'Open de Mont-de-Marsan. J'essaie de me préparer de la même façon et ce sera... Je ne pense pas vraiment être différent de est-ce que je dois rentrer dans ma bulle ou quoi. Je suis quelqu'un d'assez naturel. Donc je ne pense pas devoir m'isoler ou au contraire m'extravertir un peu la veille du tournoi.
Alors, tu as une qualité qui est indiscutable, c'est que tu es un joueur qui joue vite, ce qui est appréciable quand on est téléspectateur. Est-ce que ça fait partie de ton tempérament? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions, qui une fois qu'il a son shot dans la tête, il exécute et il ne se prend pas trop la tête. C'est dans ton tempérament ça? C'est dans ton tempérament
oui,
un peu de fonceur?
Bien sûr, c'est ça. Après, c'est pas vraiment être fonceur. Je vois les choses assez vite. J'arrive à imaginer très vite le coup que je veux taper en fonction de la distance et de la situation. Donc pour moi, pourquoi prendre plus de temps, à part si ce n'est pour se créer des doutes. Très honnêtement, je ne comprends pas les joueurs qui mettent proche d'une minute à jouer, si ce n'est plus certains joueurs, parce que pour moi, ça amène que des pensées en fait parasites, et ça amène que des choses négatives. Donc voilà, moi je vois, je sens, et une fois qu'on est d'accord avec mon cadet, on ne se pose plus de questions, on envoie et on essaye de faire le meilleur coup possible, peu importe le résultat final.
Dernière petite question, un peu de prospective. Évidemment, tu ne vas pas là-bas pour figurer, tu vas là-bas pour essayer de gagner et pour gagner. Mais parmi les favoris actuels, qui tu sembles le mieux armé pour s'imposer cette année? Est-ce que tu auras un pronostic comme ça?
Bah, le pronostic, de toute façon, je pense qu'il est clair et il est propre à un peu tout le monde. On voit Scotty Scheffler qui est très très en forme dernièrement. Il a fait quelque chose d'historique en gagnant et Bay Hill et Sawgrass 2 ans d'affilée. C'est tout simplement le meilleur joueur au monde actuellement. Il a l'air d'avoir trouvé un petit peu de putting avec ce putter maillé. Donc ça va être un joueur qui va être très 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 difficile à battre. Mais je vois aussi un Rory McIlroy qui attend ce majeur depuis longtemps, se préparer ardument à cette tâche. Donc non, il va y avoir de très belles choses là-bas. Encore une fois, John Rahm qui sera présent pour défendre son titre. On aura Brooks Koepka, on sait qu'il est très très chaud sur les majeurs. Donc voilà, pour moi, c'est un peu mon top 4 des joueurs sur cette semaine-là.
Super.
Voilà, Mathieu Pavon qui va disputer son premier Masters. Hein. Romain nous l'a dit, entouré de toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, Adrien Sadier. Petite anecdote sur sa maman d'ailleurs, avec ses histoires de pièces, de superstitions.
Il a raconté ça, j'ai découvert ça sur le compte X du Masters. Je vous le conseille.
Et je vous le conseille aussi dans l'équipe de ce matin, parce que Romain raconte l'histoire aussi.
Exactement. Sa maman en 2009... Qui est prof de golf, hein, est allée au Masters comme spectatrice avec Michel, le papa. Et je crois qu'au pied d'un arbre, elle a fait un petit trou et elle a mis une pièce avec...
Que son fils,
un jour, puisse évoluer et disputer le Masters. Et
il y a beaucoup d'arbres, hein, donc on ne sait pas trop.
Je crois qu'elle ne sait plus où elle est.
Parce qu'apparemment, elle dit que la topographie des lieux a changé. Non, et puis même les tribunes, l'agencement, tout ça. Donc elle peut te ressouvenir 15 ans.
Je trouve que l'anecdote est incroyable. Magnifique.
En tout cas, encore une fois, c'est une première dans l'histoire du Master. J'avais jamais lu cette histoire-là. Après, il y en a peut-être eu, mais on n'avait jamais lu.
Alors, en tout cas, Mathieu Pavon qui partira à 19h hein, jeudi avec Keegan Bradley et Tyler Watson.
19h pile,
0-0.
Juste au moment où on prend l'antenne.
Juste au moment où on va prendre l'antenne en direct.
La partie est dingue.
Ouais, la partie est dingue. Keegan Bradley, Tyler Watson.
Enfin, en même temps, il est mieux, quoi. Ils l'ont pas tellement mis dans les parties attendues, hein, donc elle est dingue, mais il y a encore plus dingue que.
Non, mais bien sûr.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est encore une fois dans le top 30 mondial, donc. Forcément, ils vont pas le mettre avec deux joueurs amateurs.
Alors à votre avis,
faut qu'on s'habitue, messieurs.
Alors à votre avis, que va faire Mathieu Pavon? Et justement, on vous a posé la question au golf de Longchamp.
Je sais pas, c'est tellement dur et c'est son premier en plus. Mais en tant que Français, ce serait magique. Ouais, on va le supporter à fond. Ouais.
Tout est possible, donc il n'y a pas de raison. Il manque peut-être un peu d'expérience pour ce genre de compétition, mais pourquoi pas.
Ah, déjà, s'il passe le cut, ce serait miraculeux, quoi. Je veux dire, jouer le Master la première fois, il doit y avoir tellement de pression. C'est un rêve qui se réalise, et les rêves qui se réalisent, bah, c'est toujours une véritable épreuve, en fait, quoi. On croit qu'on est prêt, on attend ça toute sa vie, et en fait, une fois qu'on est face à l'événement, c'est dur.
Il va peut-être manquer un peu d'expérience sur le parcours. Maintenant, il y a le jeu en place et il va devoir affiner la stratégie pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais oui, on croit beaucoup en une performance de Mathieu.
Mathieu Pavon, oui, je pense qu'il a des bonnes chances de bien se classer. Après gagner, je pense que c'est sa première participation. Je pense que ça va être un petit peu beaucoup de pression pour lui sur ce tournoi. Maintenant, je pense qu'il a pas mal de maturité déjà Et bon, je pense qu'il peut, il peut bien participer, ouais. Ouais. Moi, je le verrais bien s'il fait un bon tournoi d'être dans les 20 premiers.
Je pense que pour une première, ce serait. Je pense que j'y crois parce que je suis français, mais je pense que c'est effectivement probablement pas son tour. En tout cas, s'il peut faire un top 15 cette année, ce serait déjà, je pense, très très bien.
Voilà, on en a parlé avec Romain tout à l'heure. On va parler évidemment des favoris. Et Mathieu Pavon l'a dit hein, dans son interview, forcément les yeux vont être braqués sur Scottie Scheffler. Scottie Scheffler qui a une cote impressionnante forcément avec son début de saison. Une cote à la Tiger Woods de la grande époque.
Ouais, depuis 2013, on n'avait pas vu une telle cote. Bah, il est intouchable depuis le début de saison. L'année dernière, il était intouchable du tee au green, mais il peutait comme vous et moi.
Non, c'est pour bien montrer
que son putting était indigne de son niveau du tee au green et que là son putting est devenu celui d'un pro parfois excellent et là il gagne facilement ou sinon d'un pro lambda. Et bah, il joue tellement bien du tee au green et je sais pas si vous avez vu passer cette anecdote, ils ont demandé à son coach sur quoi il travaille en ce moment, il a dit sur rien. Donc voilà, quand un joueur de golf ne travaille sur rien et le journaliste disait ayez peur parce que si Scottie Scheffler ne travaille sur rien, c'est vraiment que le Masters.
Oui, et puis cette année, il y a aussi peut-être le facteur. L'année dernière, il était tenant du titre. Là, cette année, il n'est pas tenant du titre. Ça peut jouer aussi le poids de cette veste verte qui n'est plus sur ses épaules peut jouer également aussi.
Oui, encore une fois, il jouait probablement moins bien, aussi bien. En tout cas, il peut-être pas aussi bien. Donc voilà, il n'avait pas cette étiquette de favori.
Moi, je trouve que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur de golf. Alors, on parle de son début de saison qui est exceptionnel, mais ça fait quand même 2 ans qu'il marche à peu près sur tout le monde.
Ah bah c'est pas grave, il marche sur tout le monde.
Il a aucun défaut quoi, il y a pas de défaut, il y a pas de faille. Le putting, il a eu quelques mois un peu difficiles.
Oui, mais même encore le week-end dernier, il se le mange au putting.
Oui, mais c'est bien.
Et avec un Masters en ligne de mire, peut-être qu'il va encore une fois tronger la faille.
Je le trouve tellement impressionnant. Je trouve que certains de mes confrères pensent qu'il n'a aucun charisme. Moi, je trouve qu'il dégage un truc incroyable. Ouais,
peut-être de plus en plus. Même.
Je trouve qu'il prend il a l'air de prendre un pied pas possible sur son sur le parcours. Il a l'air de s'amuser.
C'est ce qu'on dit toujours. En même temps, ce jeu, il est fabuleux, même à notre niveau. Alors, quel que soit le niveau, mais alors quand vous êtes numéro 1 mondial et que vous dominez à ce point-là, c'est effectivement qu'il doit prendre un plaisir de dingue.
Moi j'avais passé un peu de temps l'an dernier au practice, au Masters. Il a une qualité de frappe de balle, enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est d'une pureté sans nom, quoi. Franchement, c'est hyper, hyper agréable à entendre, à voir. On a l'impression qu'à chaque fois, il va se casser la gueule, mais c'est tellement équilibré et travaillé. Ah, c'est difficile de trouver un type mieux armé aujourd'hui pour concurrencer sur le champ.
Même Rory, même Yandram, ses rivaux au classement mondial, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville, en tout cas encore une fois, du tee au green.
Justement,
voir du 1 au 18 ce que ça donne.
Partie alléchante à 16h42, Scheffler, Rory McIlroy, Xander Schauffele.
Ça a de la gueule, non?
Schauffele, ouais. Forcément, Rory McIlroy, il va être scruté, lui aussi, hein, comme à chaque fois au Masters. On a envie de le voir gagner, c'est un peu le cœur qui parle aussi. On espère.
J'en suis persuadé, il va y arriver.
Ça lui fait une belle jambe que vous soyez persuadé.
Après, je pense qu'il y a aussi.
Souhaite, mais entre le souhaiter et que ça se passe.
C'est le cœur qui parle, c'est du romantisme.
Oui, il faudrait qu'il soit.
Ah, ce serait tellement beau.
Qu'il soit plus sage, moins offensif, qu'il attaque peut-être un peu moins, qu'il soit un peu plus raisonnable. Mais est-ce que
la blessure est encore vraiment refermée pour l'histoire de Rory McIlroy au Masters?
Non, de toute façon, la blessure ne se refermera pas tant qu'il n'aura pas gagné. C'est pas que 2011. C'est tous ces échecs après aussi. C'est que plus les années passent, on le sait, plus ça devient dur parce que vous rajoutez un caillou ou un pavé dans le sac que vous emballez derrière.
On le répète souvent à ce podcast-là, quasiment 10 ans, même 10 ans cette année sans un majeur pour Rory McIlroy. Le temps commence vraiment à être très très long.
C'est là aussi, il faisait remarquer que Woods et Mickelson avaient gagné les grands chelems depuis que Spieth et McIlroy avaient gagné l'an dernier. Quoi. Voilà ce qu'il veut quand même dire pour ces deux-là que voilà. Ils sont pas vraiment en réussite.
Mais Spieth sera là aussi.
Exactement, j'allais en parler justement de Jordan Spieth. À chaque fois, ça fait des débats enflammés dans la rédac. Arnaud, Jordan Spieth au Masters, c'est deux histoires aussi où finalement il a tout connu. Jordan,
tout connu. Il avait fait des débuts à un moment. C'était fracassant. Bon, ça se passe moins bien.
ça se passe moins bien depuis quelques années, mais voilà, on sait qu'Augusta, c'est quand même un endroit où quand vous savez le jouer, ça change tout. Bah, lui, il a prouvé qu'il faisait partie des plus fins connaisseurs de cet endroit. Si son swing est là, et voilà, il joue très très bien, Jordan, et de temps en temps, bah, il en lâche. Mais... Et ça, malheureusement, au plus haut niveau de nos jours, c'est pas possible.
Vous avez parlé. À raison, hein. Enfin, de la connaissance du parcours. Très franchement, Mickelson, l'an dernier, dans des papiers avant le début du tournoi, je l'avais enterré de manière très profonde, quoi, quasiment écrit que pour le haut niveau.
Les résultats ne parlaient pas pour lui aussi.
Que pour le haut niveau, c'était terminé. Et très franchement, il fait une semaine exceptionnelle. Sa connaissance du parcours, chaque centimètre d'herbe, de green, ouais.
C'est un endroit où vous pouvez le faire. Voilà. C'est le dernier endroit où Woods et Mickelson quasiment ont une chance de gagner. En tout cas, c'est l'impression qu'on a.
Partie sympa aussi, 19h48.
Il y en a pas mal, les parties sympas.
Avec Jordan Spieth, Haberg et Tigala. Évidemment, Haberg, qu'on va aussi regarder. Un premier
Spieth
majeur.
Spieth qui fait partie de vieux.
Ouais,
dans cette partie.
Et Haberg qui va disputer son premier majeur.
Ouais,
son
à lire aussi l'interview dans l'équipe magazine.
5 Européens dans le top 10 mondial. Notre ami Nosferatu qui a dit ça. Une première depuis un paquet de temps.
On pense déjà à la prochaine Ryder Cup.
Ah bah évidemment, on pense à la prochaine Ryder Cup. D'ailleurs, on en parlera
avec Woods, capitaine.
Et avec notre ami Sébastien Audoux. On s'en moque de qui sera capitaine. L'important, c'est de les battre.
Et justement, Tiger Woods qui a changé de caddie. Hein. Finalement, Jola Cava, caddie Patrick Cantlay à long terme.
Il préfère la lenteur de Cantlay.
Ouais, exactement. Et donc,
à la démarche
avec Lance Bennett, ancien cadre de Matt Couchard, Bilas ou encore
Bernard. Il y a de l'info là, ça a bossé. Hein. Ça a bossé. Là.
On redit les
fiches. Week, hein.
Exactement. Tiger Woods, évidemment, on va regarder son départ, mais est-ce qu'on va regarder son départ avec un œil évidemment romantique, de se dire est-ce qu'il veut, il peut le faire, avec un œil réaliste,
Lui dit qu'il peut le faire, c'est quand même ça le plus important. Après, encore une fois,
c'est
il peut le faire.
C'est incroyable de dire ça. C'est incroyable de
26e Masters pour Tiger.
Sur simulateur, il pourrait gagner le Master. Le problème, c'est qu'il faut qu'il marche. Et ça, on n'est pas sûr qu'il puisse marcher. Donc voilà, s'il arrive à marcher, écoutez, faut jamais enterrer les grands champions, et particulièrement Woods à Augusta. Il y en a qui avaient enterré Nicklaus en 86, on l'a vu.
Ouais, il était peut-être en meilleur état de forme physique, Jack Nicklaus.
Il ne jouait pas mieux que lui depuis quelques temps, donc non, n'enterrons pas. Et son dernier grand chelem datait plus que
Woods. Pour le rappeler, il faut dire que même si c'est malheureusement, malgré tous les progrès de la télévision et de technique, c'est difficile de se rendre compte, quand on regarde le Masters à la télé, du dénivelé de ce parcours. On a quasiment, enfin, les joueurs qui ont le bonheur de fouler ces fairways, t'as quasiment jamais les pieds
à plat.
Tu montes, tu descends. Et dans l'état physique de Woods, ça reste complexe, et ça peut devenir et se transformer en véritable chemin de croix. Ce qui avait été le cas le samedi pour Woods, qui avait passé le cup, mais avec des conditions météo catastrophiques, très humides, et il boitait comme...
Ça faisait peine à voir.
Il est en course pour un 24e cut de suite, ce qui serait un record.
Un record.
Ouais, 19h24 pour Tiger Woods avec Jason Day et Max Homa, partie sympa également.
Ils ont tous attendu en fait qu'on soit à l'antenne.
Exactement, et qu'on soit à l'antenne à partir de jeudi, hein, sur les antennes de Journal du Golf TV.
En direct.
Ouais, avec plein de surprises, des cadeaux à gagner, des quiz,
surtout.
Des interviews, des invités, Guillaume Dufy.
Des grands consultants golf, ouais. 1m91.
Alors justement, on parlait de ce parcours, plus beau que jamais selon Arnaud, mais aussi...
Selon ceux qui sont sur place.
Mais aussi casse-tête pour les joueurs et les caddies. Et justement, je vous propose d'écouter Tom Elling, qui était le caddie de Victor Dubuisson en 2015, et il se remémore justement son Masters.
T'as souvenir d'une situation un peu casse-tête avec Victor, où tu t'es dit où tu t'es creusé la tête pour avoir la bonne attitude avec lui, ou avec le bon coup à taper? T'as des souvenirs de ça ou pas, de coup?
Il y en a un qui m'avait vraiment marqué. On était au 15, donc le second coup du par 5, et Victor avait tapé un super drive, et on avait joué le trou vent avec du tee. Donc on avait un coup relativement court pour le green, de souvenir, je pense que c'était un fer 5 dans ces eaux-là. Et on attendait que notre partenaire de jeu joue sous les arbres de la gauche là, pour faire le recentrage. Et on avait pris le choix du club qui était le fer 5. Et au moment de jouer, en fait, il y a une rafale qui dure suffisamment longtemps pour te mettre le doute. qui est passé, qui a fait 180 degrés, donc qui est passé plein contre. Et dans l'idée, c'était passé d'un fer 5 à un hybride sur le moment. Et c'est là la difficulté de Gusta, c'est-à-dire qu'on peut taper un hybride dans ce cas-là et essayer de faire confiance à la rafale. Ou je pense ce qu'on voit chez les personnes les plus expérimentées, c'est qu'ils attendent à ce que le vent se replace à peu près là où il devrait être, et surtout faire un peu abstraction à ce que l'on ressent au niveau du corps, on va dire à taille humaine, 2 mètres, ou enfin un peu moins pour moi malheureusement, 75, et faire confiance vraiment au vent dominant s'il y en a un sur le jour, et la force dominante du jour où la balle va voler elle-même, parce que c'est quand même une grosse différence. Et ce qui est dur à Augusta, c'est le vent que l'on sent. Si on prend un exemple d'un links, je veux dire, on joue un links en Écosse, si le vent est contre de la gauche, il est très fort, certes, mais on le sent contre de la gauche tout le long. Donc, c'est facile d'y faire confiance. Alors qu'Augusta, il peut avoir un vent dominant en haut, si c'est une journée où le vent est assez consistant. Mais la manière dont Augusta est fait, tend des pièges, et c'est surtout des pièges dans le ressenti, en fait, de vraiment faire confiance à ce qui se passe. Et pour moi, la plus grosse difficulté, c'est ça, en fait.
Et donc, du coup, là, sur ce coup-là, Victor avait changé, vous aviez pris hybride ou...
Non, au final, ce moment, on est passé sur hybride, repassé sur fer 5, et je pense qu'il avait tapé le coup de fer 5, il avait mis bien un bunker de droite, un drapeau qui était à peu près centre du green. Donc, c'était un bon coup par rapport au casse-tête de la situation, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est vrai que c'est des choses qui n'arrivent que sur ce parcours-là ou sur vraiment ce type de parcours-là.
Est-ce qu'on peut parler un peu de la main corner, comment il faut le jouer, comment t'as tes souvenirs de ce 11-12-13, on sait, parcours partie charnière un peu de ce parcours de l'Augusta National, t'as des souvenirs, comment vous l'aviez abordé? Et toi, comment vous l'avez joué, en fait?
En fait, de comment l'aborder, finalement, je crois qu'on n'avait pas très bien, on n'avait pas vraiment bien fait, je crois, en général. On avait dû rater le cut de 2 ou 3 coups, peut-être. Et la main corner, de mes souvenirs, on n'a pas spécialement bien géré. On n'a pas bien scoré. C'est compliqué à dire. En fait, ce qui est intéressant, moi, je pense vraiment que ce passage de parcours, comme le reste d'Augusta, mais d'autant plus avec celui-là où le vent, il est un peu plus coquin qu'au reste du parcours, c'est qu'en fait, l'expérience d'avoir été dans une situation où on s'est un peu cassé la figure, nous permet d'être meilleur la prochaine fois, quoi, en fait. Pour moi, il y a une grosse partie d'expérience de savoir à quoi faire confiance, pas faire confiance. Il y a aussi une grosse part de réussite, taper au bon moment. Mais ça revient aussi à l'expérience, à faire confiance à ce qui se passe là-haut, pas ce qu'on ressent. Je sais pas, je pense que il faut, la première fois où on y va, il faut avoir un tout petit peu de réussite sur le genre de vent qu'il y a, les types de vent qu'il y a, est-ce qu'il n'y en a pas trop, et surtout essayer, bien sûr essayer, de limiter le score le plus possible sur ce passage-là. Après, la main corner, c'est vrai que par rapport à Race Creek et tout ça, on y met 11, 12, 13, mais j'ai presque envie de dire que le 10, historiquement parlant, il est le second ou le premier trou le plus dur. Donc, disons que les dégâts, ils commencent un peu plus tôt, en plus, avant la main corner. Mais c'est un passage. C'est un passage du parcours qu'il faut arriver à négocier et accepter qu'un 4 sur le par 3 ou un 5 sur le 11, c'est pas spécialement des mauvais scores. Alors, c'est peut-être pas le score idéal à ce moment-là, dans la position où on est dans le tournoi. Mais sur papier, à la fin du tournoi, si on finit par faire un 4 et 3-3 au 12, on n'est pas perdant, quoi.
Le 12, justement, parle-nous de ce trou, ce par 3 finalement mythique où il s'est joué pas mal de Masters, finalement.
Ouais, je pense que c'est toujours un peu le débat. Est-ce qu'on peut perdre le Masters sur Amen Corner? Je dis, on peut le perdre un peu n'importe où, mais c'est vrai que historiquement parlant, on a vu quand même pas mal de catastrophes sur ce 12, plus que les autres troncs. Je veux dire, long, c'est juste un par 4 solide, long. J'ai pas envie de dire dur de faire 7, mais intelligemment joué, on peut faire 5. Le 12, on peut essayer de le jouer intelligemment, et malheureusement, la variable fait qu'on peut prendre un bouillon. Et on a juste à regarder un peu les dernières années, en remontant même jusqu'à, je crois que c'est Willett qui avait gagné peut-être en 16.
2016,
ouais. Ouais, avec Jordan. C'est des situations qui n'arrivent nulle part ailleurs, quoi. Nulle part ailleurs. Ce trou, il est très particulier, mais encore une fois, c'est rien sans le vent. C'est-à-dire que la complexité d'Augusta, c'est que il y a des arbres qui font 25-30 mètres de haut. Du point haut jusqu'au point bas, il y a à peu près 100 mètres de dénivelé. Et donc, quand on a le vent qui vient de certains sens et qui tape contre les buts, et je pense, moi, l'image que j'aime bien donner, c'est un peu le vent qui remplit un peu tous les couloirs comme si c'était de l'eau qui remplissait. Ben, en fait, on a des fois le vent qui peut, sur ce numéro 12, plus que les autres trous, parce qu'il est en bas et parce qu'il y a le 13 qui revient. On peut de temps en temps avoir des vents d'ouest qui sont censés être contre de la droite du départ, qui viennent taper sur le 13, derrière à droite, et qui prennent un couloir de vent et qui passe tout contraire de ce qui devrait être. Et donc, c'est juste super dur. Alors, peut-être de temps en temps, pas passer le contraire, mais pas l'affecter autant qu'il ne devrait, parce qu'il y a des grands arbres derrière aussi. Donc, c'est vraiment super dur à quantifier. Super dur à quantifier.
Tom Elling qui rappelle hein, ce facteur clé hein, qui est le vent à Augusta, et c'est vrai qu'on le voit Guillaume hein, sur ce parcours, les joueurs qui en permanence sont en train de regarder
On regarde je sais pas un satellite, le soleil, la lune, les étoiles, mais non, ils regardent les cimes des arbres parce que c'est là que tout se passe.
Et les nuages
nous quand on joue, on essaie de trouver un brin d'herbe, on le jette pour savoir dans quel sens le vent souffle. Eux ils font pas ça, ils regardent avec leur caddie la cime des arbres, et ça prend du temps, ça discute, c'est incroyable, parce que ça se joue au mètre près, parce qu'il y a des zones bien précises pour faire tomber la balle. C'est Tony Finau qui disait ça sur je sais plus le 16 ou le non le 12, le par 3 de la main corner, le 12.
En 2019,
en disant que il a tapé un coup quasi parfait, mais il lui manquait 30 cm quoi. Donc pour faire atterrir la balle, il y a pas beaucoup de place. Donc avec le vent, 30 cm, ça peut être un kilomètre quoi.
Et surtout, c'est ce que raconte Tom, hein, c'est le golf, c'est de la réussite aussi, ça teste aussi les nerfs des joueurs. Mmh. Vous tapez le coup parfait comme Tony Finau, il manque 30 cm, bah, vous vous retrouvez pendu, et bah, au lieu de faire birdie, vous faites bogey, et bah, il faut repartir au trou d'après.
Et c'est ça toute
la beauté de ce sport, c'est que bah, de temps en temps, vous avez des coups du sort. Malgré un coup bien exécuté, bah, le vent a tourné ou le vent s'est arrêté.
Comme une pomme de pin qui fait tomber votre balle dans l'eau.
Non, mais pour 30 cm, tu perds un tournoi.
Ouais, oui, 30 cm. Non, mais enfin, tu perds un tournoi si tu n'es pas capable de t'en remettre. C'est
ouais,
ça aussi. Le golf teste les nerfs des joueurs.
Et la frustration.
C'est pour ça que c'est fabuleux.
D'ailleurs, Arnaud, petite exclue, hein, on aura dans nos différents directs la chance d'avoir le caddie de Francesco Molinari qui avait caddié l'Italien en 2019. Peyo Iguaran, c'est ça.
Qui sera
avec nous pour nous raconter justement de l'intérieur comment ce Masters a été vécu. Donc je vous conseille de rester à l'antenne, ça va être passionnant.
Ouais, et je pense qu'il n'a toujours pas digéré notre cher Italien.
Bah, on peut pas digérer de toute façon.
Non mais
Thomas Björn, quand il a perdu le British en 2003, il a pas digéré un de nos commentateurs préférés sur Canal+ n'a toujours pas digéré Carnoustie en 99. Ouais. C'est impossible.
L'art du rebond.
Bah, pour rebondir, il faut gagner quoi. Ouais, et si vous gagnez pas, vous en remettez pas.
Allez messieurs, nous on va rebondir, on va jouer un petit peu avec quiz spécial Masters.
Moi j'ai piscine, je peux passer sous un tunnel pour le quiz.
Moi j'ai piscine.
Arnaud, vous adorez les quiz.
Ouais, mais je suis nul.
Plus que souvent on dit que tu triches avant que le présentateur te fait passer les questions.
Question pour toi Arnaud, première question. Donc,
1934.
On sait, hein, Yonram a reçu tous les anciens champions avec le traditionnel dîner, le dîner des champions. Mais c'est une tradition qui remonte à quelle date?
Qu'est-ce qu'on en a bah oui, mais 1960.
Moi je dirais 72.
Non, 1952. Et c'est qui avait donné l'impulsion de ce
52
de ce ouais. Donc c'était le vainqueur de l'année d'avant, 51.
Sneed.
Non, Ben Hogan.
J'ai failli dire Hogan, j'ai dit non, je vais dire l'autre.
Alors, question qu'on a déjà posée hein, sur des différents podcasts spécial Masters. Quel vainqueur du Masters a également remporté l'ancien Grand Prix PGA France? Ou
nouveau, c'est pas Ballesteros, c'est pas le premier vainqueur, c'est
championnat de France Pro maintenant.
Horton Smith, c'est ça?
Exactement, Horton Smith, donc il a gagné deux fois le Masters, 34 et 36.
Bon, ça, on la pose chaque année aussi en même temps.
Je note.
Donc, en quelle année il a gagné le Grand Prix PGA France? 1929.
Le palmarès du Grand Prix PGA, alors là.
Alors combien...
C'est l'histoire, c'est un quiz d'histoire.
C'est un quiz d'histoire du Masters.
Quiz d'histoire, d'accord.
Bah, alors, combien il y a eu de doublés dans l'histoire du Masters? Là, c'est pour toi, Arnaud.
5.
De doublés, hein, c'est-à-dire de gagner deux fois de suite.
Ouais. Ah, deux fois de suite.
Bah, deux fois de suite.
Faldo, Woods.
Et l'autre?
Watson.
Niklaus.
Et Niklaus.
Niklaus.
65-66 pour Niklaus. Faldo, 89-90. et Woods. Ouais, 3 donc. 2001-2002.
Alors, donc Ram est... le prochain?
Peut-être. Quel est le dernier joueur à avoir fait un trou en un à Augusta?
Louis Tuzen.
Non.
Non, il a eu la fin d'Albatros.
C'était sur le 16.
Non, mais je l'ai vu. Louis Tuzen, ils ont remontré son trou en un quand ça touche une autre.
C'était sur le 16 en 2022.
De Chambaud?
Non, c'était un vainqueur de British.
Shane Lowry.
Non, vainqueur du British 2009.
Stewart Sink.
Exactement. Exactement.
Chambaud en a fait un sur le 16.
Alors... Ouais, mais c'est je crois que tu confonds avec le trou en un qu'il avait fait en partie de Rocco.
Tu crois possible.
Tu
vérifieras.
Ouais. Combien de joueurs ont remporté le Masters à leur première apparition?
Bah, 2. 3.
Il en manque un. Ouais.
3.
Il y a forcément Anthony.
Le premier, Fusizoleur
et Gene Sarazin.
Sarazin
en 35.
Ah bah oui, oui d'accord. Okay.
Et dernière
question. Ouais, parce que Woods, il avait joué en tant qu'amateur.
Ouais, exactement.
Ouais. C'est son premier pro.
Combien y a-t-il de ponts sur le parcours?
Mais la question est pourrie, je la déteste, elle a 7.
Non, il y a 3 ponts. Donc il y a le pont.
Et moi j'ai pas le droit de répondre.
Il faut accélérer un peu.
Parce que Hugo, Hugo qui produit qui est derrière m'a dit 4. Alors c'est 3, merci Hugo de m'induire en erreur.
Alors il y a le pont de Gene Sarazin au 15. Alors pourquoi il y a eu un pont Gene Sarazin? C'est parce qu'il avait fait un albatros sur ce sur
ce le fameux shot heard around the globe.
Exactement. Après il y a le pont de Hogan Bridge au 12. Et le Bayern Nelson.
Parce qu'il avait fait un albatros au 12.
Au 13. Non, parce que c'était pour sa performance. Il avait fait un record. Et Bayern Nelson, c'était pour sa performance sur le 12 et le 13. Voilà.
Bon, enfin, vous en savez rien du tout.
Est-ce que Woods aura bientôt son pont?
Bah, peut-être. Hein.
Ah, ce serait bien. Donc, c'est fini là.
S'il gagne cette
Donc, voilà, il y avait 6 questions pour me ridiculiser. C'est bien, merci beaucoup.
Alors, Guillaume, est-ce que vous avez envie de tester les greens d'Augusta? Les greens du Masters.
Ah, j'aimerais bien y retourner et avoir la chance de.
Eh ben, c'est possible.
Mais c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Augusta. Vous pouvez vous rendre au golf de Paris-Longchamp.
D'accord.
Qui font leur green, leur putting green à la vitesse d'Augusta. Et justement, Manon et Fabio sont allés faire un tour à Longchamp et ils nous montrent tout ça.
Ouais, c'est là vous essayez de tondre le green à la vitesse de green d'Augusta.
Exactement.
Ça fait combien d'années que vous faites ça à Longchamp?
On fait ça à Longchamp depuis 2020. C'est la directrice de l'époque qui a mis ça en place et tout le monde a suivi le mouvement et les clients adorent. Et voilà, c'est chouette de putter sur un green hyper rapide. De temps en temps, c'est une belle expérience et donc on essaye de faire vivre ça à notre clientèle.
Et vous le tondez à quelle époque? Est-ce que c'est juste les 4 jours d'Augusta? Est-ce que c'est toute la semaine?
Alors ça se prépare, donc on descend petit à petit la hauteur de l'herbe. Donc là, cette semaine, ça a été tondu tous les jours à 3,5 mm. Là, dès demain, on descend à 3,2. On roule aussi le green, donc c'est comme un rouleau compresseur pour vraiment tasser l'herbe et donc petit à petit on descend pour pas trop stresser le green et faire ça en douceur.
Et le tournoi débute demain, jeudi. L'objectif c'est d'arriver à quelle vitesse?
Donc là, on est à 3,80 m. On va essayer de descendre, enfin de monter plutôt jusqu'à 4,20 m. Après, voilà, il y a des paramètres météorologiques, etc., qui rentrent en compte, bien sûr. Mais voilà, on essaye de se rapprocher au maximum et d'arriver dans les 4,20 m, 4,30 m.
4,20 m, ça fait un grain rapide. Il est à combien le reste de l'année ici?
Le reste de l'année, il est relativement rapide. On est généralement autour de 3 mètres en moyenne sur l'année. Donc même en hiver, etc., on est quand même sur un green qui est très qualitatif. Et puis en été, bien sûr, il est plus rapide parce que les conditions sont plus propices à avoir un green rapide, bien sûr.
Globalement, le green, là, il est plus rapide, mais c'est quoi le retour des clients qui, quand ils viennent cette semaine?
Bah, les clients, ils sont contents de pouvoir se confronter un petit peu à des vitesses de green très rapides, des vitesses qu'on retrouve généralement sur le tour et pas trop dans les clubs, dans les compétitions amateurs habituelles. Donc ils sont contents de pouvoir vivre ça de temps en temps. Et puis ils sont contents surtout parce que, vu que nous, on passe beaucoup de temps à travailler le green, etc., d'avoir un green qui est très qualitatif la majorité de l'année.
Oh, ça roule fort quand même.
C'est quoi votre sensation après ces deux premières balles?
Bah, c'est qu'elle glisse vraiment longtemps en fait. Un mètre avant le trou, et même si on a l'impression qu'elle décélère, elle continue un peu à glisser. Du coup, c'est quand même assez propre. C'est même très propre.
Merci.
Un très bon travail de la part des gamekeepers.
Voilà, le green d'Augusta au golf de Paris-Longchamp.
Je vais y aller.
Bah oui, on va faire un petit concours là-bas.
Ouais. Ouais, je vais prendre 4 putts comme Arnaud à Fontainebleau il n'y a pas longtemps. 4 putts par trou.
Non, je l'ai fait une fois, c'est bon, exagérez pas.
Bon, on va terminer, messieurs. C'est vrai qu'on a hâte que le premier départ soit donné. Messieurs, un petit pronostic pour cette édition, évidemment. Petit top 3, allez. Scotty Scheffler, forcément.
Dans l'équipe, pour rien dévoiler, mais dans l'équipe de jeudi, il y aura Scotty Scheffler avec 5 étoiles. Comme pour Paris-Roubaix, on met des étoiles. Il n'y a personne à 4 étoiles. Et voilà, il est tellement au-dessus que oui, il faut le mettre. Moi, je le mets en 1. En 2, Jordan, parce que Jordan.
C'est le cœur qui parle.
Bah, oui, parce que c'est le cœur qui parle. Et en 3, Matsuyama, parce qu'il joue très très bien, qu'il l'a déjà gagné. Et je pense que quand vous avez gagné, Augusta, vous êtes sûr de revenir. Donc déjà, ça vous donne quand même un confort qu'un Rory McIlroy n'a pas et que tous les autres n'ont pas. Donc voilà, je mettrai Matsuyama en 3.
Moi, Guillaume, un petit Kopka, ça peut être pas mal.
Franchement,
il a tiré un peu encore à balles réelles en conférence de presse.
Il est exceptionnel. Vous savez qu'il déteste le gelant, et donc les organisateurs n'ont pas trouvé mieux que de lui coller dans la même partie le petit chasseur Aman, là, qui lui est très 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 lent, à peu près 3 minutes entre chaque coup. Donc,
des woggles dans tous les sens.
Voilà, une quinzaine à chaque fois, et donc Kopka est comme un dingue, et ça promet donc un peu de testostérone, des étincelles.
Ouais, enfin là vraiment, c'est là où Augusta, ils ont... C'est limite une mesure anti-live.
Ouais, c'est un peu respectueux, je trouve.
Quand même, quoi.
Mais
Kopka,
l'an dernier, moi, je l'ai suivi. Franchement, sur les majeurs, il est différent, quoi. Lui, il ne joue que pour ça, de toute façon, que pour les gros événements.
C'est sûr que l'IV, c'était fait pour lui. Hein.
Et je pense qu'il sera, là. Il sera là dimanche, comme Scheffler. Mon speech, je suis fan. Sa gestion du 18e trou le week-end dernier... à San Antonio est exceptionnel. Il a joué sur un toit,
ouais.
Il a joué dans des cailloux.
Il faisait du street golf.
Voilà, franchement, ce type est exceptionnel. Je pense que Ram sera là aussi. Voilà, je pense
justement,
que Ram sera là.
On parlait de cette un peu campagne anti-live, voir Ram avec Fitzpatrick et Dunlap. On aurait pu espérer un meilleur draw pour Ian Ram.
Franchement,
Fitzpatrick, c'est pas mal quand même.
Fitzpatrick,
Dunlap,
c'est pas mal.
Il a gagné sur le PGA Tour.
On aurait pu le mettre avec.
On peut pas tout critiquer non plus. Et de voir le mal partout, faut pas exagérer.
Mais remplacer Ram par Scheffler dans la partie avec Scheffler, Rory, Ram, ça aurait été pas mal.
Par exemple, l'an dernier, faut pas mettre tous les
œufs dans le même panier.
L'an dernier, avant le début du tournoi, on était un peu inquiet. On se demandait comment les joueurs du Live allaient être accueillis par la foule, par les spectateurs, par les autres joueurs. Très franchement, show must go on, et c'était super, quoi. C'était même assez génial de revoir les meilleurs joueurs au même endroit. Sur une semaine, c'était très dense, un niveau exceptionnel. Très franchement, c'est top. Il faut l'âge de guerre est enterré, je crois.
Peut-être bon, on s'est un peu égaré sur le top 3. Guillaume.
Mais non, mais.
Non, il a donné sinon dans son top 3.
Tu me lances sur le sujet livre, donc je te réponds. Hein, voilà, tu me lances.
Allez, merci.
Et vous, pas de top 3, vous?
Moi, je vais mettre.
Chez Fleur.
Non, Spice, c'est pas mal.
Arrêtez de dire comment.
Non, moi, je mettrais bien Patrick Reed aussi, parce qu'il a déjà gagné.
Patrick Reed.
Et l'année dernière,
il. Et même s'il fait 72, il inscrit à 69 de toute façon, donc il faut gagner.
Le téléspectateur ou l'auditeur ne doivent pas être cachés aussi et éloignés de notre cuisine. T'as mis qui aussi? T'as mis Corda, non?
J'ai mis Corda en 4 étoiles. Pour la blague et pour rendre hommage à Nelly Corda qui fait un début de saison
exceptionnel.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On vous annonce aussi une grande nouvelle. Donc, vous l'avez vu, hein, pendant toute cette émission, on parlait de ces émissions en live. À partir de jeudi, on sera en direct, donc sur les antennes de Journal du Golf TV.
Pour le premier coup de Mathieu Pavon, à croire qu'ils ont
exactement,
fait exprès. Quoi.
Exactement. Quatre soirées exceptionnelles jusqu'au bout de la nuit avec des débriefs, des invités, des cadeaux à gagner. Sur Journal du Golf TV.
Un fil rouge,
sur
fil rouge.
Pour répondre à toutes vos questions sur YouTube. Un fil rouge avec Arnaud.
Un concours d'approche et deux drivers à gagner dans quelques centres.
Tu peux jouer, Guillaume, si pour gagner
un avec Trackman et notre partenaire TaylorMade. Voilà, on va se régaler pendant 4 jours, et on fait ça aussi parce que, donc, on l'a dit, jeudi matin Canal 172 Orange, Journal du Golf TV arrive, donc ça va être la fête pendant 4 jours. Évidemment, c'est la plus belle semaine de golf de l'année, et particulièrement ce Journal du
Golf
TV.
Donc rendez-vous sur la Fan Zone à partir de 19h jeudi. Merci beaucoup, messieurs, et merci, en tout cas, et bon Masters. Salut.
Et merci à
Hugo Ponce.
Merci à Hugo de m'avoir filé les mauvaises réponses sur le quiz.
Allez, salut.
Ce programme vous a été présenté par Callaway Apparel.